Chapitre 8. Après sa mésaventure chez Ludovic Sénéchal, Lucie avait déposé le film ignoble chez Claude Poignet, le restaurateur. Une fois la nouvelle de la cécité de Ludovic encaissée, la septuagénaire, spécialiste de l'autopsie des films, avait embarqué la bobine et promis d'y jeter un œil immédiatement. Pour l'heure, Lucie se trouvait auprès de sa fille. Avec un long soupir, elle approcha une dernière fois la fourchette de la bouche de Juliette. Les médecins avaient dit d'insister, il fallait qu'elle mange. Plus facile à dire qu'à faire. « Allez, un petit effort, je t'en prie. » La gamine secoua la tête et se mit à pleurer. Elle avait le teint olivâtre, les joues creusées. Lucie poussa le chariot sur lequel reposait l'immonde assiette de purée de pois et serra sa fille contre elle. Elle sentit les petites mains, sans plus de force, se rétracter dans son dos. C'était difficile de voir une môme d'ordinaire si vivante et souriante se perdre dans un pyjama trop grand, tant elle avait maigri, et se déplacer avec une perfusion dans le bras. « Ce n'est pas grave, ma puce.
Je veux voir Clara, maman. »
Depuis deux jours, Lucie avait mesuré la portée de son erreur. Elle hésitait franchement à faire rapatrier la jumelle de sa première colonie dans l'Isère. Mais Clara les avait tellement souhaité ses vacances avec ses petites copines. « Bientôt, Juliette, bientôt. Elle va t'envoyer une belle carte postale. Elle a promis. » Lucie vérifia qu'aucun membre du personnel n'arrivait et sortit de sa poche des biscuits au chocolat. « Et ça, tu veux ?» Juliette acquiesça mollement.
« J'ai le droit ?»«
Oui, bien sûr, mais tu ne le dis à personne, d'accord ? Tape là !»
Juliette frappa faiblement dans la main de sa mère avec un sourire, puis avala enfin les deux biscuits. Sa gorge se raidit. On distinguait les veines et les tendons. Lucie veilla à se débarrasser de l'emballage, heureuse que sa fille ait enfin quelque chose dans l'estomac. Juliette finit au lit, épuisée par la maladie. Quand l'infirmière passa faire ses relevés, elle nota dans une grimace
« 2 cuillères de purée, 1 demi-biscuit et pas de jambon. »
En d'autres termes, on n'était pas prêt d'ôter la perfusion. Et donc d'envisager ne serait-ce que l'ombre d'une sortie prochaine. Minée, Lucie resta avec sa fille jusqu'à ce qu'elle s'endorme, les yeux vers l'écran de télé. On parlait de cette sordide affaire autour d'un pipeline en Haute-Normandie. Un paquet de cadavres, des crânes ouverts, un profiler sur le cou, dont elle apercevait en ce moment même le visage à l'écran. Un type costaud, une vraie carcasse de flic, certainement pas celle d'un psychologue. D'où sortait-il? De quelle école? Avait-il déjà traité des affaires sur les tueurs en série? Quelque part, Lucie l'enviait. Cette histoire de cadavre au crâne scié était le genre d'enquête qu'il aurait branché par-dessus tout. Le trip de la découverte, la traque d'une entité dangereuse, malsaine. Mais, bon Dieu, elle était en congé, en plein été. Un moment où les gens sont censés s'amuser, faire la fête et se vider l'esprit. Ce soir, seule avec sa gamine, au fin fond d'un hôpital, elle se sentait à des années-lumière de ce monde-là. Lucie posa aux côtés de Juliette la nouvelle peluche, un éléphant bleu apporté par sa mère. Informa l'infirmière de son départ, puis fila jusqu'à Salingro, à 100 mètres de l'aile pédiatrique. Le docteur Tournel avait des nouvelles concernant Ludovic Sénéchal. Le praticien l'accueillit dans une vaste salle dont l'on pouvait apercevoir derrière de larges vitres un scanner et du matériel ultra perfectionné. Face à Lucie, sur un mur luminescent, s'étalaient des radiographies. Sur une table, de la documentation et des planches anatomiques sur l'œil, le système nerveux, le cerveau. Le docteur se frotta nerveusement le menton. Depuis qu'elle l'avait vu dans la matinée, ses cheveux s'étaient ratatinés sur son crâne. Les poches sous ses yeux avaient gonflé. Il n'était plus aussi séduisant. Juste un type crevé par le travail. Comme n'importe qui.
On a passé la journée à lui faire des examens. Ludovic Sénéchal a été transféré en unité psychiatrique, à Fréra. Voilà à peine une heure.
Lucie tomba les nues. L'unité psychiatrique ? Comment ça ? Tournelle ôta ses lunettes et se massa les tempes.
Laissez-moi vous expliquer simplement. Ludovic n'est pas aveugle au sens physiologique du terme. Comme je vous l'ai dit ce matin, l'évaluation des réflexes pupillaires et les structures oculaires n'a révélé aucune anomalie significative. En revanche, le patient présente une errance du regard et une absence de contact visuel.
Vous avez dit psychiatrie. Alors, ce n'est pas une tumeur ?
Le docteur se tourna vers la vingtaine de radiographies représentant le cerveau de Ludovic et en décrocha une.
« Non. Regardez, tout est propre. Pas la moindre anomalie. »
Il aurait très bien pu lui montrer la cervelle d'une vache. Lucie se sentait néanmoins rassurée. Ludovic n'allait pas mourir.
« Je vous crois sur parole. »
On a aussi cherché des lésions dans les zones du cortex visuel qui auraient pu expliquer une cécité corticale, mais on n'a rien trouvé.
Une cécité corticale ?
Le docteur lui adressa un sourire fatigué.
On a tendance à croire que c'est l'œil qui voit, mais il n'est qu'un outil, en définitive, un puits à lumière. Lisez ce texte, vous comprendrez.
Lucie prit le carton imprimé qu'il lui tendit. Ce texte-là, pour m'entrer que norte servaui ne tardiu pas et qu'exactement que ce viot norte oiel, miasque influencé par son acusis, il réocniat globa. Elmnet les notes sans se préoccuper de l'ordre des l'éther.
Impressionnant. N'est-ce pas? La rétine prête juste son corps, si je puis dire, pour matérialiser une image physique comme le ferait n'importe quel écran de cinéma. Il s'agit simplement d'un objet passif, une lentille. C'est le cerveau qui interprète, à partir des acquis et du vécu, de l'environnement culturel. C'est lui qui fait de l'image ce qu'elle est, un objet significatif.
Il repositionna la radiographie au bon endroit.
Le fait prodigieux concernant mon patient est qu'il peut éviter certains obstacles sans les voir. Une boîte que l'on pose sur son trajet, par exemple. Une chaise, un meuble. Nous avons filmé, vous pourrez visualiser les enregistrements. C'est stupéfiant.
Non, merci, ça ira. Il voit donc sans voir. Ça, c'est incompréhensible.
Incompréhensible d'un point de vue médical. Mais si nous, les médecins, nous ne trouvons rien, c'est que la source est psychique.
Vous voulez parler de quelque chose comme la dépression ou la schizophrénie? Un truc dans le genre qui l'empêcherait de voir?
Vous auriez été davantage sur la voie en parlant de névrose, d'angoisse, de phobie ou d'hystérie. En ce qui nous concerne, nous soupçonnons une cécité hystérique. Il s'agit d'un trouble sensoriel qui fait partie des hystéries de conversion. Paralysie imaginaire, surdité, anesthésie de membres. L'un des exemples les plus connus reste le membre fantôme.
Il éteignit les lumières et invita Lucie à le suivre dans les couloirs de l'unité de neurologie. Les éclairages blafards donnaient une impression de lieu futuriste, aseptisé.
Un psychiatre vous en parlerait mieux que moi, mais l'hystérie
est un mécanisme de défense qui se met en place pour protéger le psychisme d'une agression soudaine. Elle survient brutalement suite à un élément déclencheur en rapport avec l'enfance du patient. Un élément profondément traumatisant.
Des images particulières pourraient provoquer cela ?
Je sais à quoi vous pensez. Ce film qui l'aurait rendu aveugle. Monsieur Sénéchal n'a cessé de m'en parler. Oui, cela est possible, en théorie. Et vu les circonstances, je pense que la cause vient de là. La cécité étant survenue en plein milieu de la projection. Le seul hic, c'est que le patient dit ne pas avoir été choqué par les images projetées. Il a l'habitude de voir des fictions. Et cet œil crevé dont il m'a parlé en début de film ne l'a pas plus remué que cela. Quant au reste, rien de traumatisant à ce qu'il raconte. Il n'a même pas pu voir la fin du court-métrage. Il était déjà aveugle.
Et il n'a donc pas vu la scène du taureau ?
Le taureau ? Non, il n'y a pas fait allusion. En revanche, il a énormément parlé de malaise, d'angoisse grandissante au fur et à mesure. Comme si quelque chose le prenait à la gorge, l'étouffait jusqu'à le priver de la vue.
Lucie avait ressenti exactement la même chose, la sensation d'étouffer. Elle se frotta les bras.
Pourtant, entre l'entaille de l'œil et l'égorgement de la bête que n'avait pas vu Ludovic, il n'y avait rien de véritablement choquant. Juste une petite fille qui caressait des chats ou déjeunait à table.
Possible que des images cachées aient provoqué cela.
Le docteur marqua un silence de réflexion.
Subliminal, vous voulez dire?
C'est une piste à explorer.
Et que va-t-il se passer avec Ludovic? Est-ce que...
Le médecin s'arrêta de marcher. On arrivait devant son bureau.
Il devrait recouvrer la vue progressivement. Le tout est d'essayer de comprendre l'origine du traumatisme et de le faire ressortir. Mes confrères psychiatres savent très bien s'occuper de cela, en utilisant l'hypnose notamment. Je vous donne toutes les coordonnées du professeur qui a pris en charge M. Sénéchal, si vous voulez. Évitez de lui rendre visite avant demain après-midi. En attendant, vous pouvez tenter d'avancer avec le film.
Lucie nota les informations et retourna auprès de sa fille, piquée au vif par cette drôle d'histoire. Le choc traumatique, les fouilles chez Ludovic, l'impression de malaise au fil du visionnage, que cachait ce mystérieux film? Qui cherchait à le récupérer? Pourquoi? Sans bruit, elle fit sa toilette dans la ridicule salle de bain et enfila son pyjama. Immobile, elle se regarda longuement dans le miroir. Non pas elle, mais son reflet, ce rendu de lumière projeté sur les objets. Le docteur Tournel avait raison. L'œil ne discernait qu'un ensemble de couleurs, de formes, mais le cerveau, lui, y voyait une femme de 37 ans. Très fatiguée par un mauvais sommeil, en manque d'amour et de sexe. Il interprétait chaque pulsation lumineuse et cherchait à se raccrocher à des épisodes vécus. Dès lors, Lucie songea aux différents plans rapprochés sur le visage de la gamine de la balançoire pendant le court-métrage. La pupille battante, les mouvements de l'iris... Cette sensation d'incursion, de voyeurisme, avec le cache en forme d'ovale, l'œil qui prend la lumière et observe en silence, et surtout à ce globe oculaire fendu en deux, première séquence de la projection. Elle se souvenait avoir détourné la tête, preuve que son cerveau avait réagi violemment, qu'il y avait bien eu interprétation. Dès lors, sa vision du film changea. le réalisateur avait peut-être inséré cette séquence initiale, très choquante, non pas par pur étalage d'horreur, mais pour signifier quelque chose.
Concentrez-vous et suivez bien ce que j'ai à vous montrer. Ou faites comme moi avec mon scalpel. Ouvrez l'œil.
Ouvrez l'œil. Au milieu de la nuit, son portable posé au pied de son fauteuil vibra.
Lucie ne se réveilla pas cette fois. Elle était bien trop épuisée.
Le SMS indiquait « Claude Poignet, le restaurateur, passé demain en fin de matinée et des infos pour le moins étranges concernant votre film ».